pour un système universel des retraites, tel était le titre du rapport paru en juillet 2019 qui contenait les préconisations de Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Même si cette réforme est pour l'instant repoussée après les élections municipales par le gouvernement, elle a animé cette rentrée des mobilisations syndicales, avec pour point d'orgue de la contestation la suppression des régimes spéciaux. Une réforme des retraites est-elle justifiée? Qu'impliquerait un système unique? Qu'est-ce que l'âge pivot? Bascule-t-on vers un système par capitalisation? Autant de questions que nous avons posées à Laurent Cordonnier, économiste enseignant à l'Université de Lille. Et pour entrer dans le vif du sujet, quelques chiffres sur notre système des retraites.
Sur l'importance déjà de ce que représente le système des retraites, dans l'ensemble des revenus qui sont distribués au niveau national, pour donner une indication, parlante ou pas, mais il n'y en a pas de meilleure, ça représente à peu près 14% le montant des retraites versées ou des prélèvements effectués sur nos revenus, puisque les prélèvements servent à payer les pensions, ça représente à peu près 14% du produit intérieur brut annuel, c'est-à-dire de la richesse créée annuellement. Ce qui n'est pas finalement énorme compte tenu du fait que bien maintenant on s'approche vraiment d'un ratio ou d'une proportion de moins d'1,5 travailleurs par retraité à financer. Bon, ça veut dire que l'effort qu'on doit faire chacun d'entre nous annuellement pour payer les cotisations retraite représente en gros 14% de nos revenus global. Alors, si on traduit ça en milliards d'euros, ça fait 365 milliards d'euros par an cotisés et versés aux retraités.
Si je pose cette question des chiffres, c'est en fait pour savoir s'il y a une justification à une réforme éventuelle. Autrement dit, est-ce que c'est parce que les retraités coûtent cher ou ce genre de phrase qu'on a l'habitude d'entendre qu'il faut faire une réforme?
En réalité, c'est une réforme qui s'annonce ou qui s'avance, non pas comme une réforme au départ pour rééquilibrer les comptes, parce que les comptes du régime, des différents régimes de retraite en moyenne étaient sur une trajectoire d'équilibre, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu un grand nombre de réformes dans les années passées qui avaient précisément pour but de rétablir cet équilibre. Donc nous n'étions pas du tout sous une urgence de rétablir l'équilibre des comptes. Et on pourrait dire que c'est la première fois que se présentait l'idée de réformer un peu à froid le système pour en faire, et c'est ce que le gouvernement prétend réaliser, pour en faire un système plus équitable, d'accord, et c'est pratiquement son unique but, un système plus équitable en procédant à une réforme de retraite par points. Bon, c'est ça l'essentiel en fait de cette réforme. Alors, il est vrai que les dernières projections sur l'équilibre des régimes de retraite montrent que il pourrait tout de même exister un déséquilibre financier réel, mais pas inquiétant du tout, dans les 5 ou 6 prochaines années. Il pourrait y avoir un trou de l'ordre de 5 milliards par an dans le fonctionnement du régime, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport aux 365 milliards dont on parlait tout à l'heure. Et donc il y a une tentation en fait aussi du gouvernement de dire, à l'occasion de cette réforme, il faut aussi traiter cette question du déséquilibre financier, ce qui est peut-être la pire des mauvaises idées. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, parce que le gouvernement aurait sans doute tout intérêt à bien distinguer une réforme qui peut être faite au nom, on peut en discuter aussi, mais de l'équité, et une réforme qui serait faite au nom des grands équilibres. Je crois que là, le déficit qui est annoncé pour les prochaines années ne devrait pas en fait venir polluer le débat ou la discussion. Il y a bien d'autres choses à discuter en fait à l'occasion de cette réforme.
Qu'est-ce qui changerait si le gouvernement suivait les préconisations du rapport Delevoye? Quelles seraient les grandes lignes de la réforme qui serait proposée?
La grande chose qui changerait, c'est que il n'y aurait plus 42 régimes différents pour l'ensemble des salariés, et même pas seulement des salariés, mais aussi des indépendants. Il n'y aurait plus qu'un régime commun, d'accord, dit dans le rapport Delevoye, régime universel. Régime universel, qui plus est, qui fonctionnerait à la base, comme c'est annoncé par le gouvernement, sur tout le monde soumis à la même règle. C'est-à-dire que vos droits à la retraite seraient strictement proportionnels à ce que vous avez cotisé. Un euro cotisé, dit le gouvernement, et c'est le but d'une réforme par points, un euro cotisé donne droit, quelle que soit la personne qui a cotisé, au même taux de conversion en retraite une fois qu'on prend sa retraite. Donc c'est une réforme qui est annoncée comme étant universelle et équitable. Alors équitable dans un sens très particulier, dans le sens où votre retraite serait strictement proportionnelle au montant des cotisations que vous avez versées durant toute votre carrière, et qui ne poserait donc plus de calcul, de problème de calcul des droits à terme. C'est vraiment ça l'essentiel de l'esprit de cette réforme.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? On entend parler beaucoup de l'âge pivot ou la disparition de la durée de cotisation.
Effectivement, dans un dispositif comme celui-là, on ne peut malgré tout pas laisser la liberté aux individus de prendre leur retraite quand bon leur semble. Bon. Donc il resterait un âge de départ légal minimum pour faire valoir ses droits à la retraite. Dans la proposition de Jean-Paul Delevoye, c'est 62 ans, donc ça resterait l'âge d'aujourd'hui. On pourrait pas prendre sa retraite avant, sauf pour les dispositifs carrière longue qui seraient maintenus, peut-être sous une autre forme, enfin l'esprit en serait maintenu. Mais interviendrait une nouvelle notion qui est l'âge pivot. Pour l'instant, la proposition est de 64 ans. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion d'âge pivot ? C'est que vous pouvez très bien prendre votre retraite à 62 ans, aujourd'hui, mais vous voir infliger des décotes parce que vous n'avez pas les 42 annuités et demie de cotisation. Eh bien, dans le nouveau système, il n'y aurait plus de longueur de cotisation définie, comme les 42 ans et demie aujourd'hui, mais il y aurait cet âge de 64 ans qui indiquerait l'âge à partir duquel il n'y a ni décote ni surcote. Donc, quand vous prenez votre retraite à 64 ans, quelle que soit la durée cotisée, on ne vous pénalisera pas pour les années manquantes. Vous ne perdrez que le montant des cotisations que vous n'avez pas versé parce que vous n'avez peut-être pas cotisé suffisamment longtemps, mais il n'y a pas les 5% de pénalité qui existent aujourd'hui.
Dans l'opinion publique, il y a une cristallisation autour de la question de la retraite par répartition ou par capitalisation. Est-ce que c'est ça qui se joue ?
Alors là, c'est sûr que il faut rentrer dans l'analyse et la prospective pour arriver à répondre à cette question. Parce que très clairement, au point de départ, c'est une réforme de la retraite par répartition. Et quand on lit le rapport Delevoye, on a des paragraphes vibrants sur la sécurité sociale, le choix de la mutualisation et de la socialisation, le choix de la répartition contre le choix de l'individualisme, de la capitalisation. C'est très clairement exprimé dès l'introduction du rapport, et sans conteste, il s'agit bien de réformer, avec ce système par points, de réformer le système par répartition. Mais tout est dans le mais. On sait très bien que si on calibre ou on sous-calibre à cette occasion-là le système par répartition, qu'on lui fait perdre de sa puissance et de sa générosité globale, et que en particulier, comme c'est dans l'idée du gouvernement, on veut maintenir ce seuil de 14% du PIB consacré aux retraites et pas au-delà, compte tenu de l'évolution démographique, on sait qu'on risque d'aller vers des baisses de montants des pensions. Que l'avenir, c'est quand même à une diminution globale du montant des pensions, avec ce plafond psychologique qui est mis à 14%. Dans ce cas-là, on a beau sauver le système par répartition, mais en le sauvant d'une certaine manière médiocrement ou trop court, on envoie un signal très clair aux uns et aux autres et à chacun de dire prévoyez-vous une retraite par capitalisation. Donc je crois que à chaque fois qu'on mégote sur le système par répartition, qu'on le rend moins généreux et moins avenant, évidemment, on encourage ceux qui le peuvent, à se constituer une épargne retraite ou à investir dans l'achat de leur logement pour assurer leurs arrières.
Donc on annonce la réforme comme pouvant rendre le système de retraite plus juste, plus simple, plus équitable. La logique actuelle est plutôt à l'austérité budgétaire et donc fait plutôt dominer des intérêts comptables. La suppression des régimes spéciaux peut aussi être perçue comme un nivellement par le bas. Est-ce qu'on comprend mal la retraite ou les discours, ou est-ce que le gouvernement cache son jeu ?
On aimerait avoir une réponse claire et convaincue à votre question. Ce que j'ai tendance à en penser, ce serait pas un mal d'avoir cette retraite universelle dans laquelle on est tous logés à la même enseigne, entre guillemets, parce que le fait d'avoir aussi tous ces régimes spéciaux pollue les débats au sein du salariat, chacun soupçonnant l'autre d'être assis sur des avantages, chacun se jalouse, regarde dans l'assiette du voisin, et finalement ça affaiblit les solidarités de l'ensemble du salariat, en particulier évidemment sur ces questions de retraite. Donc on pourrait avoir un regard attendri sur cette proposition qui est de réunifier finalement Monsieur Macron serait le grand réunificateur du salariat en le mettant complètement sous la même mesure. Mais ce que l'on peut soupçonner aussi, et je le disais à l'instant, c'est que si le système n'est pas assez avenant, ou s'il est fait purement et simplement pour rétablir un équilibre purement comptable des comptes, je crois que le gouvernement va à la catastrophe. Il va absolument à la catastrophe. Et les deux écueils qu'il devrait, et le mot écueil est un euphémisme, mais les deux écueils qu'il faudrait éviter dans cette période-là, c'est précisément ne pas en faire une opération de rééquilibrage, et deuxièmement, assurer la transition. Parce qu'il est impensable que des gens se soient engagés dans des carrières ou des métiers qui ont leurs contraintes, qui ont leur pénibilité, qui avaient leurs évolutions salariales prévues, moins payées en début de carrière, plus payées en début de carrière, une meilleure retraite, etc. Bref, des gens qui se sont engagés dans des carrières avec un package salarial sur toute la durée de vie, leur bouleverser de fond en comble du jour au lendemain ce type de contrat et de projection, c'est quand même impensable, quoi. C'est finalement faire s'effondrer la confiance dans le contrat intergénérationnel qu'on prétend préserver par ailleurs. Donc il va falloir absolument, si le gouvernement veut s'en sortir, soigner la transition et faire en sorte que personne n'y perde dans cette transition. Je suis pas sûr du tout qu'il soit parti dans cette direction-là. Pas sûr du tout. Et peut-être même que le gouvernement serait pas mécontent de voir les corporatismes se déchaîner, que chacun se monte les uns contre les autres et que les privilèges croisés, entre guillemets, soient dénoncés pour faire passer sa réforme. Donc, si on est soupçonneux, on peut penser aussi que ce sera une réforme qui, au bout du compte, diminuera la générosité du système, et qui, finalement, en profitera pour retailler dans le profilage de certains systèmes de retraite.
Est-ce que ce qui se dessine, on pourrait appeler ça une retraite au mérite, avec pour seul critère du mérite la fiche de paie, et c'est présenté comme quelque chose de plus juste, mais les inégalités salariales avec ce système-là deviendraient de fait aussi des inégalités de retraite.
Incontestablement, si le système est juste avec quatre paires de guillemets, c'est dans le sens où vous l'avez dit. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas très juste. Parce que ça veut dire qu'on va vraiment toucher une retraite qui est strictement proportionnelle à ce qu'on a cotisé. Et donc qui maintient, telle quelle, les inégalités salarial de la période de la vie active. Si vous avez gagné deux fois plus dans votre vie active que votre voisin, vous aurez une retraite deux fois meilleure que votre voisin. C'est ça la justice de ce système, entre guillemets. Donc c'est un système, en effet, qui ne corrige absolument pas, dans le fond, les inégalités salariales. Mais il faut pas non plus fantasmer celui qui existe. Le système qui existe aujourd'hui, il est déjà quasiment comme ça. Vous avez une bonne retraite si vous avez eu de bons salaires, et vous avez une moins bonne retraite si vous avez eu des salaires bien plus modestes. J'ai tendance à penser que c'est pas là qu'est l'essentiel du problème. Bon, surtout qu'il y aura quand même des mesures de sauvegarde en haut et en bas du système. Enfin, si la proposition de Delevoye est acquise, le sort des plus basses retraites pourrait même s'améliorer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Celui des plus hautes retraites pourrait, au contraire, se dégrader, si on regarde un petit peu dans le détail les mesures. Donc, j'ai tendance à dire, c'est un système qui va conserver les injustices, mais ne faisons pas comme si le nôtre aujourd'hui ne les conservait pas déjà.
Un autre point aussi qui peut apparaître problématique, c'est la détermination de la valeur de ce point qui permettra de calculer les pensions de retraite.
C'est sûr que ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est aussi même pas une arrière-pensée, parce que c'est explicitement mis sur la table. Le fait d'avoir un système par points rend très facile la correction du montant des pensions en fonction de la conjoncture économique, de la croissance ou des événements démographiques X ou Y. Il suffit d'une décision presque gouvernementale, avalisée par peut-être un grand conseil des retraites, pour modifier la valeur du point. Donc on peut avoir des embardés. Là aussi, la facilité technique n'est pas non plus une facilité politique, parce qu'aujourd'hui aussi, on peut changer les règles d'indemnisation des pensions. On peut, par exemple, oublier de revaloriser les pensions en fonction de l'inflation. Bon. Et alors là, les gens, ils n'y voient que du feu. Enfin, ils mettent du temps à s'en rendre compte qu'on est en train de leur faire les poches. Bon. Peut-être que ce sera plus clair quand on aura à l'ouverture du 20h modification du point de retraite, parce que là, tout le monde comprendra ce que ça veut dire. Bon. Donc, à voir. Bon, des hommes politiques n'auront pas forcément plus de facilité à faire ce que bon leur semble qu'aujourd'hui, à mon avis.
La réforme serait-elle au final un moyen de renforcer une tendance à la désindexation des pensions ?
J'en suis pas sûr, parce que, encore une fois, les choses vont devenir plus claires. C'est-à-dire que si le gouvernement annonce en début d'année le point n'est pas revalorisé, tout le monde va quand même comprendre assez rapidement qu'il manque 1,2% d'inflation ou 1,3% d'inflation ou 1,4% d'inflation. Je pense que ce sera pas forcément plus facile de faire le brouillard après qu'aujourd'hui. Je pense pas que ce soit le risque majeur. Non, ce qui peut paraître aujourd'hui presque hallucinant, c'est que Monsieur Macron avait prévu dans sa campagne de réindexer les pensions sur les salaires. Plus personne n'en parle, ça. Plus personne n'en parle. Non seulement on a l'impression d'une générosité extraordinaire quand on revalorise les retraites seulement de l'inflation, mais il faut savoir que depuis 25 ans, les retraites décrochent par rapport au salaire. Les salaires et le pouvoir d'achat du salaire, lui, il continue malgré tout à augmenter. Alors à des rythmes évidemment très très poussifs, de l'ordre de 0,4-0,5% par an, les bonnes années 1%, mais ce sont des augmentations dont ne bénéficient pas les retraités depuis quasiment 25 ans. Ça veut dire que progressivement, le pouvoir d'achat des retraités décroche par rapport à celui des actifs. Et ça aussi, c'est quand même difficile à vivre. Progressivement, si votre retraite est longue, vous voyez décrocher en termes comparatifs avec les actifs. Donc ça, personne n'en parle plus, mais il y a quand même un enjeu considérable. Est-ce que l'indexation doit se faire par rapport au prix seulement, ou un peu plus ? Par rapport à l'évolution du pouvoir d'achat des salaires.
Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à Lille, au sujet de la réforme des retraites telle que la préconise Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, dans son rapport de juillet 2019. Et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez également écouter un autre de nos reportages, Comprendre l'histoire du système des retraites, réalisé avec Paul Masson, militant de l'éducation populaire.